C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole ici pour la première fois dans nos rencontres Bible et Monde. Et j'ai proposé un sujet, la chronologie biblique face aux chronologies profanes. Et quand j'ai commencé à comprendre ce que représentait ce sujet, je me suis dit, oh là là, dans quel guêpier tu t'es mis. Entrons dans la matière tout de suite. Pour le lecteur de l'Ancien Testament, qui porte un regard confiant sur la véracité historique des textes bibliques qu'il étudie, il existe un gouffre insoupçonné, immense sous ses pieds. Que voulons-nous dire? Il ne s'agit pas ici des quelques 3 siècles de critiques bibliques destructrices de l'intégrité du texte de la Bible juive et chrétienne, critiques subjectives, rationalistes, qui cherchent toujours à miner la validité textuelle de la Sainte Écriture. Il ne s'agit pas de cela. Ça, c'est le subjectivisme pur qui devient la norme absolue de toute lecture, imposant son sens au texte avec une assurance souveraine. C'est la modernité dont il a été question dans la conférence précédente. Non, il s'agit de bien autre chose. Si l'on cherche à examiner avec une certaine attention le rapport qui pourrait exister entre le récit historique que nous fournit l'Ancien Testament et l'histoire officiellement reçue du Moyen-Orient ancien, telle que nous la donne l'état présent unanime des recherches historiques et archéologiques en cours, nous sommes placés devant une situation pour le moins surprenante. Il n'existe quasiment aucun point de contact entre l'histoire des temps antiques, telle que la relate la Bible, et l'histoire du Moyen-Orient ancien, telle que nous la trouvons dans les publications académiques du monde entier. Ceci est vrai au moins jusqu'à l'apparition de la domination assyrienne au Moyen-Orient au 8e siècle avant Jésus-Christ. Cet état de fait étonnant a suscité 2 réactions principales. D'abord, la réaction de savants qui pensent avoir établi de manière indubitable et quasi définitive la non-historicité des récits que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Illustrons notre propos par un texte proche de nous, tant par le temps que par l'espace. Il provient du journal gratuit de l'Université de Lausanne, mis à la disposition de ses étudiants « Allez savoir !» dont le numéro de cet été est largement consacré à une relecture non historique de l'Ancien Testament. Le rédacteur de ce journal, Jocelyn Rochat, après avoir fait part de ses difficultés personnelles face à l'idée du Dieu de l'Ancien Testament, Dieu qu'il appelle vindicatif et colonisateur, qui ferait tomber les murailles de Jéricho au son des trompes, afin de dépouiller ses habitants d'un territoire qu'il destinait à ses adorateurs, il montre ensuite le peu de fondement biblique et historique de son malaise, vu que ces événements, relatés par la Bible, n'ont en réalité jamais existé, hors de l'imagination des auteurs des récits bibliques. Il poursuit. Les archéologues qui sondent les terres d'Abraham, de Moïse et du roi David, comme les exégètes de la Bible, dont fait partie le professeur Thomas Romer de l'Université de Lausanne, dit M. Rochat, vous propose désormais une autre manière de lire l'Ancien Testament. Dans cette relecture, le Dieu guerrier glorifié dans les premiers livres de la Bible n'engloutit plus les troupes du Pharaon dans la mer, pour la simple et bonne raison qu'un tel épisode est impossible historiquement parlant. Ce Dieu colonisateur se voit même offrir un alibi pour la bataille de Jéricho, puisque celle-ci n'a, selon toute vraisemblance, jamais eu lieu. Fin de citation. Et le rédacteur conclut son éditorial par ces mots enthousiastes. Et c'est une excellente chose! Dans ce numéro de cette revue, il y a un long entretien avec M. Romer qui confirme largement les propos du journaliste universitaire. De son côté, William G. Devers, qui depuis plus de 30 ans dirige de nombreuses fouilles sur les sites bibliques du Moyen-Orient, dans un livre qui se veut une défense de l'historicité de la Bible que nous avons ici, on vient à poser de manière assez crue les implications de ces découvertes pour les lectures de la Sainte Écriture. Je le cite. Imaginons que l'ancien Israël n'ait été qu'une fable inventée par des Juifs qui ont vécu bien plus tard, que la littérature biblique n'ait été que pieuse propagande, comme le proclament certains historiens révisionnistes. Alors, il n'y aurait jamais eu d'ancien Israël. Il n'y aurait jamais eu de véritable expérience historique d'un peuple réel, à une époque et dans un lieu réel, dont nous pourrions espérer hériter quelque chose de valide sur le plan historique, encore moins quelque chose de valide sur le plan moral et éthique. L'histoire d'Israël que nous conte la Bible hébraïque ne serait qu'un monstrueux canular, une farce littéraire destinée à induire en erreur des millions d'honnêtes gens qui n'étaient pas pour la dénonciation courageuse d'une poignée de savants. Fin de citation. Voici le problème posé. D'une part, nous avons un récit biblique qui se prétend historique et qui, en plus, est fortement structuré sur le plan chronologique. De l'autre, nous avons des données archéologiques dont les dates sont ancrées au cadre d'une chronologie égyptienne constituée d'après des documents divers du 3e siècle avant Jésus-Christ par le prêtre égyptien païen Manéthon. Enfin, aucune concordance, aucun accord précis réel n'existe entre ces deux séries d'événements. Aucun événement de l'histoire d'Israël ne correspond à un événement dans l'histoire de l'Égypte qui lui serait contemporain. Ceci est certainement le cas si la chronologie officiellement reçue est correcte. On peut dresser une variété d'hypothèses à partir de ce constat des données historiques et archéologiques concernant l'histoire du Moyen-Orient ancien telle qu'elle est actuellement perçue dans le monde académique. Premièrement, le récit officiellement accepté est exact et donc l'histoire biblique d'Israël est un mythe. Deuxièmement, les événements décrits par la Bible sont vrais et la chronologie que l'on y trouve est exacte. Il doit en conséquence y avoir des faits correspondants aux faits bibliquement attestés dans l'histoire égyptienne. Par exemple, le déluge, enfin, je parle pas du déluge, l'exode, par exemple. Si aujourd'hui on ne les trouve pas, c'est que l'on cherche au mauvais endroit historique, parce qu'il y a un décalage important entre la chronologie biblique, qui elle est historiquement exacte, et la chronologie officiellement reconnue pour l'Égypte ancienne, qui elle est fausse historiquement. Troisièmement, on peut également essayer de continuer à accepter la chronologie actuellement reconnue et cependant quand même chercher à y trouver un accommodement avec les faits attestés par les documents bibliques. C'est la démarche tentée par l'archéologue Dever, que nous venons de citer, ou encore par l'éminent égyptologue de l'Université de Liverpool, Kenneth Kitchen, et bien d'autres chrétiens aussi, des savants chrétiens aussi. Et puis, on peut enfin, comme le fait la vaste majorité des spécialistes de l'Ancien Testament, attacher qu'il soit à la véracité historique et théologique de la Bible ou non. Jouer au jeu de l'autruche. Avec la question que nous soulevons ici, il semble préféré, pour éviter le danger intellectuel et spirituel de se confronter à l'historicité ou la non-historicité des documents de l'Ancien Testament, simplement passer sous silence la question du lien entre l'histoire biblique et les événements de l'histoire. Il se consacre à l'exégèse des textes de l'Ancien Testament de manière indépendante de l'histoire des hommes. La religion chrétienne, dans une telle perspective, dégagée qu'elle est des réalités de l'histoire, prend alors, sans même s'en rendre compte, l'allure d'un système gnostique suspendu en l'air, hors de la réalité créée. C'est la spiritualisation à outrance. Le professeur Dever, pour sa part, prétend que la Bible a dit vrai, postulant une véracité historique pour les documents bibliques de l'ordre de 10%. Exprime son étonnement devant le refus général des commentateurs bibliques, toutes tendances rassemblées, même de considérer ce qu'il appelle le problème de la reconstruction historique. Citons-le encore. Fait étrange. Ses livres, ses commentaires, pour la plupart, quelle que soit leur approche, contournent le problème de la reconstruction historique. Ils tentent de se contenter d'être une histoire de la littérature consacrée à l'histoire de l'ancien Israël. Alors, que ne m'attache davantage, alors que moi je m'attache davantage à ce que Albright appelle les réalia, c'est-à-dire les faits concrets. Fin de citation. L'exception notable à la myopie historique qui caractérise ces commentateurs est l'ouvrage merveilleux de deux savants juifs, André et René Neher. C'est ce livre-là. C'est le meilleur livre sur cette table. L'irremplaçable histoire biblique du peuple d'Israël. Dans une affirmation courageuse que nous faisons pleinement nôtre, ils écrivent au sujet de leur ouvrage majeur. Je les cite. Ce livre présente l'histoire du peuple d'Israël dans les limites chronologiques de la Bible. Il accepte l'histoire biblique comme un tout indivisible, à l'inverse de Renan et de Lotz, qui sont à l'heure actuelle, c'est-à-dire en 1962, les classiques de l'histoire d'Israël. Les auteurs de ce livre ne reconstruisent pas l'histoire de la Bible sur les ruines de la Bible. La Bible ne se manifeste pas à eux en tant que document historique, chemin faisant seulement, à titre accidentel et comme par pièces détachées, lorsque la documentation historique extra-biblique ne fournit pas la matière. C'est sur le corps et l'esprit d'une Bible considérée comme un organisme vivant que se développe ici l'histoire. Ce n'est pas une histoire d'Israël à propos de la Bible, mais une histoire biblique d'Israël. Emmanuel Velikovsky, dont nous aurons pas mal à dire, aux travaux desquels nous allons plus loin largement revenir, écrivait très judicieusement à propos des impasses dans lesquelles sont tombées les recherches sur l'histoire du Moyen-Orient ancien, et en particulier celle des pharaons. Je le cite, « Pieux, il ne pose pas de questions. Instruit, il déclare que les merveilles racontées dans le récit n'étaient que des événements ordinaires. Critique, ils nièrent l'histoire, l'expliquant comme un mythe d'origine relativement récente. Alors nous allons d'abord parler de la chronologie reçue pour l'histoire du Moyen-Orient ancien. Pour bien comprendre la problématique chronologique qui va maintenant occuper notre attention, il nous faut examiner la manière dont a été établie la datation des événements du monde antique. Commençons par une définition de ce qu'est la chronologie. Floyd Nolan Jones, dans un ouvrage récent intitulé « La chronologie de l'Ancien Testament », écrit ceci. Je le cite. « La chronologie est la science qui cherche à diviser le temps en des intervalles réguliers et à attribuer des dates aux événements historiques, ceci dans l'ordre qui leur est propre. Sans elle, il deviendrait impossible de comprendre la suite des événements de l'histoire, biblique ou non biblique. Comme la chronologie est le fondement sur lequel repose l'histoire et le squelette lui donnant sa structure et sa forme, les événements de l'histoire ne peuvent être compris ou avoir un sens que pour autant qu'ils sont maintenus dans leur séquence temporelle exacte. Si la séquence temporelle est altérée, l'interprétation des événements est déformée et l'on ne peut plus leur faire confiance. » Fin de citation. Pour les historiens et les chronologues modernes travaillant sur l'histoire du Moyen-Orient ancien, les textes bibliques sont frappés d'un ostracisme intellectuel arbitraire. Ils ne sont pas placés sur le même plan de fiabilité que les documents prétendument neutres de la documentation historique non biblique. Ces érudits sont réconfortés dans ce préjugé défavorable, frappant les textes de la Bible, par les résultats du travail de la méthode historico-critique en vogue dans les universités depuis fort longtemps. Ce travail critique effectue sur la Bible la déconstruction du texte biblique à tel point qu'il ne conserve plus aucune valeur aux yeux des historiens comme document historique fiable. Pour structurer l'histoire du Moyen-Orient ancien, nos savants ont donc dû se rabattre sur les données chronologiques extérieures à la Bible. Il s'agit en l'occurrence de reconstructions des dynasties égyptiennes, élaborées principalement d'après les listes constituées par le prêtre égyptien Manéthon au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Nous disposons aussi pour une période plus tardive de la liste des rois de Perse. Mais nous ne nous occuperons pas de la période perse dans cette étude. Il faut remarquer ici que les peuples du Moyen-Orient ancien étaient, à l'exception d'Israël, tous animés d'une conception cyclique de l'histoire, ce qui explique leur peu d'intérêt à garder un souvenir exact des événements chronologiquement datés de leur passé. Contrairement aux peuples d'Israël, pour lequel l'histoire religieuse suivait non des cycles se répétant, comme c'était le cas chez les peuples païens, mais une direction linéaire, tous les autres peuples du Moyen-Orient se contentaient bien souvent d'une chronologie approximative. On a ainsi, par un a priori irrationnel, exclu les données les plus sûres pour l'établissement d'une chronologie définissant le cadre de l'histoire du Moyen-Orient ancien, et ceci en faveur de données chronologiques souvent difficiles à interpréter, contradictoires et fragmentaires, ouvrant ainsi la porte à de nombreuses incertitudes et à des hypothèses fragiles. Les listes dynastiques de Manéthon. Les diverses listes dynastiques attribuées aux prêtres égyptiens Manéthon, qui sont la base de la chronologie officielle, vivant au IIIe siècle avant Jésus-Christ, constituent la base de la chronologie officielle de l'histoire du Moyen-Orient ancien. Voici ce qu'en écrit Roger Henry dans un ouvrage récent. Il est essentiel de comprendre comment cette chronologie s'est formée. Les Égyptiens notaient les événements en fonction des années de règne du monarque alors en vie. Bien que nous groupons les pharaons en dynasties, les Égyptiens ne le faisaient pas. Et bien que nous possédons plusieurs listes de rois fragmentaires, elles n'indiquent pas les dynasties parallèles et ne permettent pas de déterminer la durée précise de chaque règne. Pour faire cela, il faut espérer que les inscriptions découvertes sur le terrain puissent couvrir des règnes complets, mais ceci n'est que rarement le cas. Qu'en est-il alors de ces listes dynastiques de Manéthon sur lesquelles les historiens et les archéologues ont construit la chronologie de l'ancienne Égypte, puis par extrapolation celle du Moyen-Orient ancien tout entier? Sont-elles sûres, fiables, certaines? Pour nous en faire une idée, écoutons ce qu'en dit professeur Waddell, dans l'introduction de sa traduction de l'édition classique établie et traduite par ses soins des œuvres de Manéthon. Je cite, « Ces œuvres, dans leur forme originale, auraient la plus grande importance et valeur pour nous aujourd'hui, mais nous ne pouvons connaître ces écrits que dans des citations fragmentaires et souvent déformées, qu'ont préservé pour nous Joseph et les chronographes chrétiens Africanus et Eusèbe. » Fin de citation. Nous trouvons d'autres fragments des œuvres de Manéthon dispersés dans celles des différents auteurs grecs. Waddell écrit ensuite. Même à partir de la brève description que nous venons de donner, on peut voir que de nombreux problèmes subsistent et qu'il est en conséquence très difficile d'avoir une certitude quelconque sur ce qui serait authentiquement de Manéthon ou ce qui est ou bien usurpé ou bien corrompu. Fin de citation. Il ajoute que les passages de Manéthon aujourd'hui disponibles ont été tellement manipulés par ceux qui les employaient à des fins d'historiens polémiques que nous ne pouvons plus reconnaître clairement ce qui appartenait à Manéthon et ce qui provient d'adjonctions ultérieures. Après avoir décrit les écarts étonnants que l'on découvre entre les différentes listes de pharaons figurant sur les monuments et documents égyptiens, Abydos, Karnak, le papyrus de Turin, la pierre de Palerme, etc., et la difficulté de les réconcilier avec les fragments de listes de dynastie de Manéthon qui sont parvenus jusqu'à nous, Waddell écrit encore. Nous savons que Manéthon a critiqué Hérodote. Hérodote, c'est un historien de l'Antiquité grecque. Cependant, les Aegyopetika de Manéthon n'ont aucune prétention à être considérés comme une histoire critique de l'Égypte. Sa valeur se trouve dans les squelettes dynastiques qu'on y trouve et qui servent de structure aux indices découverts sur les monuments. Elles servent ainsi à fournir les bases essentielles du schéma généralement reçu pour établir la chronologie égyptienne. Il continue. Mais le travail de Manéthon lui-même contenait dès son départ de nombreuses erreurs. Et toutes ne provenaient pas des perversions du texte introduites par les scribes et les réviseurs. On a trouvé la durée de nombreux règnes parfaitement impossible. Dans certains cas, les noms des rois et de leur ordre de succession chez Manéthon se sont avérés inacceptables à la lumière des preuves provenant des monuments. En terminant, il nous faut faire remarquer le caractère à proprement religieux du travail historique et chronologique de ce prêtre égyptien du temple d'Héliopolis, temple dans lequel il introduisit le culte syncrétiste de Sérapis. En fait, la source principale des Lys de Manéthon étaient les révélations qui venaient de la prêtresse de ce culte de Sérapis. On constate ainsi non seulement que les bases religieuses païennes des chronologies de Manéthon, mais également le caractère incertain, fragmentaire, partiel et souvent contradictoire des listes dynastiques qu'il nous a laissées. Dans une telle perspective, on ne peut qu'admirer la retenue et la modération des critiques émises par l'historien biblique juif André Neher à l'égard d'un système chronologique si universellement admiré et cependant fondé sur des bases si remarquables par leur incertitude et leur fragilité. Alors maintenant, je vais me tourner vers la critique de ce système chronologique universellement admis et qui exclut l'historicité de la Bible sur des bases que vous avez bien reconnues comme étant particulièrement solides. Eh bien, il y a une critique de ce... N'est-ce pas? Il n'y a pas une unanimité de l'obscurantisme. Il y a quand même dans le domaine scientifique des gens qui ont un esprit critique. C'est rare, mais ça existe. Bien que l'écrasante majorité des historiens et des archéologues tiennent la chronologie officiellement reçue basée sur les listes dynastiques de Manéthon pour étant d'une solidité certaine, les esprits indépendants se sont dressés ici et là au cours des derniers siècles pour critiquer les faiblesses de la chronologie reçue pour l'Égypte. D'abord, Isaac Newton, le grand physicien et mathématicien anglais, était un passionné d'histoire ancienne. Et aussi d'alchimie, d'ailleurs. Il n'est pas connu pour ses travaux de chronologie, mais il doit être sans doute considéré comme l'ancêtre intellectuel des critiques modernes du système de Manéthon. Il a critiqué très sévèrement ce système dans des études qui ont été très approfondies, et il a en fait constaté que ce n'était absolument pas une base pour construire l'histoire ancienne. Ensuite, au XIXe siècle, je citerai des noms en passant, il y avait un savant, un égyptologue français qui s'appelle Ernest Havet, qui avait déjà trouvé à ce moment-là d'énormes contradictions. En 1873, il publia un livre où il y avait d'énormes contradictions dans les listes de Manéthon et aussi des listes de rois, de pharaons, en dehors des papyrus de Manéthon. Puis, en troisième lieu, il y a un nommé Liebling qui a publié la même année, en 1873, l'égyptologue français Liebling publia en Suède les résultats de ses recherches sur la chronologie égyptienne. Il y avait découvert en étudiant les listes dynastiques alors à sa disposition qu'il était impossible de suivre comme telles les listes de Manéthon. Puis en 1896, vous avez un athée, un anglais un peu excentrique, un peu spécial, qui s'appelait Cecil Thor, qui a fait une étude extrêmement poussée de ces listes. Il y avait un problème. En 1896, Cecil Thor se pencha avec attention sur les listes royales et dynastiques de Manéthon. L'acceptation de la chronologie déduite d'après les documents de Manéthon avait eu des effets surprenants sur la chronologie des civilisations voisines de l'Égypte. En particulier, la découverte des poteries grecques de l'époque mycénienne, du XIIe au VIIIe siècle avant le Christ, dans le contexte de la célèbre dynastie égyptienne, la 18e dynastie, qui est officiellement datée au moins 4 siècles plus tôt, voyez le contraste, a posé d'énormes problèmes aux spécialistes historiens de la Grèce antique. Alors, on a postulé qu'il y avait une période de 400 ans où il n'y avait rien du tout, parce qu'il fallait absolument maintenir la structure chronologique en place. Alors, on a créé le mythe de 400 siècles vides entre les poteries grecques qui se trouvaient en Égypte et le développement de ces mêmes poteries en Grèce. Et entre deux, il n'y avait rien. Thor a établi une autre méthode pour essayer d'établir une liste. Il a dit, nous ne pouvons pas établir une liste à partir de documents peu fiables, il nous faut aller du plus proche au plus lointain. Alors on commence avec les premiers pharaons qu'on connaît vraiment, et on commence à construire à partir de là une chronologie systématique. Il a trouvé en fait qu'on pouvait économiser à peu près 400 ans. Ça, c'est pour Thor. Puis, il y a un grand savant juif qui s'appelle Yahuda. Vous remarquez ici l'absence totale des chrétiens. C'est remarquable. Yahuda, en 1935, publia un magnifique livre où, comme linguiste spécialiste de l'hébreu et de l'égyptien, l'hiéroglyphe, il a dit, en fait, il croyait vraiment à la véracité des textes bibliques, surtout par rapport à l'histoire de Joseph et de l'Exode, et il a dit, si c'est vrai, il doit y avoir des répercussions sur le texte hébraïque. Si c'est bien écrit à ce moment-là, et il a trouvé des répercussions à l'appel, énormément de mots dans l'hébreu qui venaient de l'égyptien. Une compréhension parfaite de l'histoire égyptienne, des mœurs égyptiennes, des coutumes égyptiennes de l'histoire égyptienne. Pour lui, ces preuves internes à la Bible accordaient une fiabilité extraordinaire à ces récits. Puis ensuite, en 1971, nous avons un adventiste. Un adventiste qui était spécialiste des poissons vénéneux. Un spécialiste mondial des poissons vénéneux, mais dans ses à côté, il était théologien, archéologue, égyptologue. Et pendant quelques 25 ans, il a consacré ses loisirs à l'étude de ces problèmes. Il a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Le problème de l'Exode et ses ramifications ». Alors, Courville, contrairement à ceux qui l'ont précédé, se base explicitement sur la valeur des données chronologiques contenues dans le détail du texte de la Bible, afin de rectifier la chronologie officielle de l'Égypte ancienne. Il confronte ainsi de manière systématique le cadre stable de la chronologie biblique aux données diverses et à partir desquelles la chronologie universitaire en place a été constituée. Et voilà sa conclusion. La différence par rapport à la chronologie biblique est de l'ordre de 600 ans. Lors de la conquête de Canaan, et pas moins de 600 ans lors de l'Exode. S'il est vrai que les vues généralement acceptées sont frappées d'une erreur d'une pareille ampleur, continue Courville, une structure chronologique corrigée de l'histoire du Moyen-Orient ancien devrait éliminer les problèmes non résolus ainsi que les anachronismes apparents du système en place et devrait, en plus, ne pas y introduire des problèmes nouveaux. Fin de citation. C'est à travers une étude minutieuse menée pendant de longues années sur les données archéologiques de l'histoire de l'Égypte que Courville en est advenu à justifier l'entière véracité historique des faits bibliquement attestés et leur relation organique avec le contexte historique environnant. Dans sa conclusion, Donovan Courville écrivait ceci. La nécessité de reconnaître l'existence d'espaces chronologiques vides de tout contenu historique, des espèces de trous noirs, des trous noirs historiques, pas dans l'espace, mais dans l'histoire, dans une ère géographique particulière, est un signe permettant de soupçonner que la chronologie a dû être indûment étendue. Si de tels vides historiques apparaissent dans plusieurs régions éloignées les unes des autres, la probabilité augmente qu'une telle extension infondée de la chronologie requiert un réexamen critique des présupposés sur lesquels la structure chronologique générale à toutes ces régions a été construite. L'existence d'un espace temporel de plusieurs siècles vide de tout contenu historique, tant dans l'histoire de la Grèce que dans celle des Hittites, ainsi que pour de nombreux sites spécifiques en Palestine et ailleurs, est un exemple clair de ce que nous affirmons ici. Ensuite, en 1991, il y avait un savant anglais, avec une équipe de 4 autres archéologues et égyptologues, qui s'appelle Peter James, a repris la question, en particulier par rapport à l'empire hittite, de l'île de Chypre et de la Palestine, et enfin de l'histoire égyptienne elle-même. Thor avait déjà constaté les problèmes impossibles que la chronologie reçue imposait à l'histoire de la Grèce et à celle de l'Asie mineure. Il s'agissait d'un décalage de plus de 5 siècles entre des époques que l'histoire des anciens décrivait comme immédiatement successives. Dans un remarquable chapitre intitulé « Redater l'Empire des Hittites », James examine l'histoire de l'empire des Hattis ou des Hittites qui s'est étendu entre la Méditerranée et la mer Noire, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie mineure, région aujourd'hui faisant partie de la Turquie. Les fouilles en Asie mineure et dans l'est de la Syrie révèlent de remarquables ressemblances entre la culture hittite et celle qui prévalait sur l'île de Crète voisine, civilisation apparentée à celle de Minos et qui précéda de peu l'apparition de la Grèce archaïque. Thor avait, contre les datations tardives de la chronologie reçue, confirmé l'opinion traditionnelle, c'est-à-dire des anciens, grecs et romains, que cet ensemble datait du 9e et du 8e siècle avant Jésus-Christ. En 1887, furent découverts les fameuses archives de la diplomatie pharaonique d'El Amarna, dans la vallée du Nil, où se trouvaient des copies de la correspondance des célèbres pharaons de la 18e dynastie égyptienne, celle des Amenhotep III, Akhenaton, Toutankhamon, dynastie datée officiellement des 14e et 13e siècles avant Jésus-Christ. Dans cette correspondance, on a trouvé de nombreuses lettres entre les dirigeants de l'Égypte et leurs confrères de l'Empire des Hittites. Un fossé de près de 5 siècles était ainsi mis en plein jour dans les données de l'histoire archaïque grecque qui correspondait au style de la culture hittite au 8e siècle avant Jésus-Christ, et la correspondance diplomatique entre l'Empire hittite et l'Égypte des pharaons de la 18e dynastie, elle datait officiellement du 14e et 13e siècle avant Jésus-Christ. Que je me fasse bien comprendre. Les historiens officiels disent que cette magnifique dynastie égyptienne, la 18e dynastie, se trouve au 14e et 13e siècle avant Jésus-Christ. Il y a une correspondance avec les Hittites, et les Hittites se trouvent au 8e, au 10e et au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, on va pas dire, il faut mettre ça ensemble, ce qui est le bon sens, parce qu'il semble que le bon sens est largement disparu de notre terre. Non, il faut créer un trou. On crée un énorme trou. Un trou parfaitement imaginaire, n'est-ce pas, entre la Crète, les Hittites, la Grèce, et nous allons voir même la Palestine, et puis, mais alors quand même, il y a une correspondance entre les deux. Comment expliquer ça? Jamais de la vie, on va admettre qu'on a tort. Vous savez, les habitudes en science sont plus dangereuses que les erreurs. Les erreurs, on peut les corriger. Les habitudes, on peut très difficilement s'en sortir, à moins d'une révolution. Ça s'appelle des révolutions scientifiques. Il faut que les vieux savants meurent et puis les jeunes prennent leur place. C'est la seule manière. En plus, en 1906, furent découvertes à Boghazkoy, en Turquie orientale, les archives de la capitale de l'Empire hittite. Voilà. Alors, on a les archives égyptiennes, maintenant on a les archives hittites. Hattusa, la capitale s'appelait Hattusa, qui recelait de nombreuses copies de la correspondance entre les empires hittites et égyptiens. On y trouve des lettres entre l'empereur hittite et Ramsès II, pharaon de la 9e, 19e dynastie. Comme le dit James, je le cite, la découverte de ces documents détaillés, ainsi que ceux d'El Amarna, ne laisse aucun doute sur la chronologie relative de l'empire hittite. Elle était maintenant clairement synchronisée avec la 18e et 19e dynastie égyptienne, et en conséquence datée au 15e et du 15e au 13e siècle avant Jésus-Christ. Ces dates, toujours calculées selon la chronologie officielle. La chute de l'Empire hittite a dû, selon cette chronologie, avoir lieu en 1200 et 1175 avant Jésus-Christ. Mais le problème, c'est qu'en fait, nous savons que la chute de cet empire est due aux Assyriens. Et les Assyriens vivaient non pas au 13e et 15e siècle avant Jésus-Christ, mais au 8e et au 9e siècle avant Jésus-Christ. On le sait. Mais ça ne change rien. On peut savoir n'importe quoi, ça ne change rien. Les faits n'ont aucune espèce d'importance. Mais plus que ça, dans les tablettes découvertes dans les archives de la capitale hittite Hattusa, on découvrait de nombreux écrits dans une langue jusqu'alors inconnue, mais très proche de l'hébreu, l'ugarite. Et même des poèmes dont le style se rapproche de manière étonnante à celui du prophète Ésaïe, 14e siècle avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous savons que Ésaïe a vécu au 8e siècle. Résumons. De nombreux indices pointent vers une date récente pour l'Empire des Hittites. Les synchronismes avec la Crète du 8e siècle sont évidents, ainsi que ceux de l'Empire assyrien de la même époque, et ceux encore avec la langue et la poésie hébraïque du temps d'Ésaïe. Mais la synchronisation la plus forte est évidemment avec l'Égypte des pharaons du 18e au 19e siècle, dynastie avec lequel il y a une correspondance intense. Mais la chronologie universellement en usage fixe ces dynasties dans la période qui va du 15e au 13e siècle avant Jésus-Christ, d'où un décalage de quelques 5 siècles entre les deux systèmes de datation. En avançant la chronologie de l'Égypte de quelques 5 siècles, c'est-à-dire en faisant disparaître un creux imaginaire, on parviendrait à une synchronisation des dates qui résoudrait tous les problèmes. Mais les savants ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça, ils veulent leur système. L'hypothèse couramment admise partout dans les cercles universitaires d'un creux chronologique de 5 siècles, dans lequel rien ne serait passé, se serait passé sur le plan historique, et pour lequel il n'y a pas la moindre trace de preuve. Vide historique entre une prétendue apogée de l'Empire Hittite au XIIIe siècle et sa disparition sous les coups de l'Empire Assyrien au 8e siècle commence à paraître sous sa figure véritable, celle d'une réalité purement virtuelle, d'une pure fiction académique. David Rohl, 1995, dans un ouvrage qui eut un effet sensationnel auprès du grand public, il fut accompagné d'une série télévisée de haute qualité et à grand succès, mais qui connut, comme il faut s'y attendre, aujourd'hui, le rejet presque unanime de la communauté scientifique des égyptologues chevronnés, l'archéologue et égyptologue professionnel de l'Université de Londres, David Rohl, en vint enfin à proposer au grand public une révision complète de la chronologie en place pour tout le Moyen-Orient ancien. Bien qu'il tienne à la véracité historique des récits bibliques, ça doit être un juif pieux, et qu'il soit venu à la conclusion que la chronologie biblique pouvait donner un sens exact à l'histoire du Moyen-Orient ancien, ce n'est pas à partir de la Bible que s'est développée sa réflexion, mais à partir des anomalies qu'il rencontra lors de ses travaux d'égyptologue sur le terrain. Ce qui le fit beaucoup réfléchir fut de constater que les données concrètes contredisaient de manière flagrante l'ordre successif des rois égyptiens présentés par la chronologie en place. Et on pourrait tirer des exemples de sa manière de réfléchir à partir des faits concrets de l'archéologie qui contredisaient l'ordre des pharaons égyptiens. Il a par exemple travaillé sur des tombes dont on voyait très bien qu'elles se succédaient. N'est-ce pas? C'était impossible qu'elles ne se succèdent pas, elles étaient emboîtées les unes dans les autres. Mais la chronologie disait que celle qui était plus tardive était en fait réellement avant. Et il a découvert un creux, là, entre les pharaons de 141 ans. Tirant les conclusions d'une pareille reconstruction de la chronologie égyptienne, Rohl parvint à trouver un nombre impressionnant de synchronisations entre l'histoire de l'ancienne Égypte et celle du peuple d'Israël. En particulier, il découvrit des correspondances étonnantes entre l'histoire biblique de Joseph et de ses frères et l'histoire égyptienne. Il confirmait ainsi très largement la véracité et la fidélité à l'histoire des textes de l'Ancien Testament. Ainsi, Abraham, Jacob, Moïse, Josué, Saül, David, Salomon, pour nous arrêter là, apparaissaient à nouveau à leur juste place dans l'histoire du Moyen-Orient ancien. Mais vous voyez, Monsieur David Rohl est un banni, un pestiféré dans le domaine académique anglais. Et il doit travailler indépendamment pour arriver à faire comprendre, au moins par le large public, le grand public, la véracité de ces découvertes. En 2003, Roger Henry, après 25 ans de recherche sur ces questions, écrivit un livre qui nous décrit l'inévitable reconstruction de la chronologie du Moyen-Orient ancien. À l'arrière-plan de cet ouvrage, ce savant se trouvait un savant juif de génie, d'origine russe, mais dont l'essentiel de la carrière se passa aux États-Unis. Il s'agit d'Immanuel Velikovsky, 1895-1974, dont les publications dans le domaine astronomique d'abord, puis surtout dans celui de l'histoire de l'Antiquité, en particulier celle de l'Égypte ancienne, se trouvent à l'arrière-plan des travaux de Courville, de James, de Rolfe, que nous venons rapidement d'évoquer. Mais il y a un problème, c'est que beaucoup de ces spécialistes nouveaux ne citent pas leurs devanciers et prennent leurs découvertes comme les leurs. Velikovsky s'attacha, comme suite toute naturelle à ses travaux cosmologiques, au problème de la chronologie qui nous occupe aujourd'hui. Nous examinerons certains des résultats de ses recherches dans la prochaine section. Nous attachons en particulier à son ouvrage classique qui est ici, Le désordre des siècles. En publiant ce livre en 1952, voyez, il a fallu attendre 2005 pour qu'il y ait une traduction française. L'auteur a fourni les résultats de ses recherches, en particulier pour ce qui concerne la synchronisation entre l'histoire biblique du peuple d'Israël et celle de l'Égypte ancienne. Mais il est fort regrettable que dans ce livre, il n'expliqua pas clairement les mécanismes correctifs qui lui ont permis d'atteindre les résultats qui le conduisirent à restructurer la chronologie de l'Égypte ancienne pour faire paraître comme des évidences spectaculaires les concordances entre de grandes figures pharaoniques et les récits bibliques. C'est seulement dans une série d'ouvrages parus quelques 20 ans plus tard, au début des années 70, que Velikovsky donna des explications permettant de comprendre comment des erreurs chronologiques si importantes avaient pu ainsi s'imposer à l'histoire officielle du Moyen-Orient. C'est entre autres à l'explication de la méthode de correction chronologique utilisée par Velikovsky que s'est attelé Roger Henry. Voyons comment il définit le but qu'il s'est proposé. Toute la reconstruction de l'histoire ancienne repose sur deux corrections simples de l'histoire égyptienne. La séquence normalement acceptée des dynasties des pharaons égyptiens contient deux duplications et une dynastie parallèle. La liste des dynasties sur laquelle a été façonnée la chronologie égyptienne provient, comme nous l'avons vu, de plusieurs versions incomplètes et souvent contradictoires de l'œuvre d'un Égyptien nommé Manéthon. La réévaluation des listes de Manéthon à laquelle nous procéderons montrera que la 19e et 20e dynastie du nouveau royaume, c'est-à-dire le plus récent, sont des versions égyptiennes des 26e et 30e dynasties, connues par les historiens à partir des sources grecques et hébraïques. En plus, la 21e dynastie des rois-prêtres est parallèle à celle des pharaons égyptiens. Nous allons maintenant nous tourner vers les résultats des recherches pionnières d'Emmanuel Velikovsky. Troisième section, Emmanuel Velikovsky et la redécouverte de l'histoire véritable du Moyen-Orient ancien. Bien que Velikovsky fût un juif non-croyant, il avait cependant un esprit suffisamment indépendant pour refuser aussi bien les hypothèses de la critique biblique qui repousse la rédaction et de la plus grande partie de l'Ancien Testament à l'époque du retour des Juifs de l'exil à Babylone, que les hypothèses chronologiques contraires des archéologues qui donnent à l'histoire d'Israël une telle antiquité qu'il en devient impossible d'en retrouver les traces dans l'histoire et même dans le sol de la Palestine, officiellement reçue par l'Académie de l'Égypte ancienne. C'est-à-dire qu'on cherche à la même mauvaise époque, à la mauvaise couche, et on ne trouve pas, et on dit ça n'a pas eu lieu. Mais on ne se dit jamais, on cherche au mauvais endroit. On m'a souvent dit que un des grands problèmes en science, c'est de poser les bonnes questions. Velikovsky s'exprime avec toute la clarté nécessaire sur ces questions fondamentales. Citons-le. Durant trois générations, les spécialistes de la Bible prônèrent, à la pleine satisfaction de tous, qu'une grande partie des Écritures était une œuvre tardive, rédigée de nombreux siècles après les dates indiquées par les Écritures elles-mêmes. Ensuite, au cours des années 1930, avec la découverte de Ras Chamra, l'estimation fut revue dans une direction totalement opposée. Les mêmes récits bibliques furent alors considérés comme un héritage de la culture cananéenne, 6 ans sont plus anciens que les textes bibliques. Cependant, la collecte de matériaux provenant des sources littéraires hébraïques de Ras Chamra et de l'Égypte le convaincu que si c'est la rédaction de l'âge du texte biblique, pose, prose et vers compris, fut une erreur, l'actuelle remontée de leur ancienneté en est une autre. Fin de citation. Nous allons maintenant voir quelques-unes des concordances entre l'histoire de l'ancienne Égypte et l'histoire biblique d'Israël, mises en lumière par cet esprit indépendant et particulièrement soucieux d'exactitude. Mais répétons-le, ces conclusions ne viennent pas d'une application directe de la chronologie biblique à l'histoire de l'Égypte ancienne. Une telle méthode n'aurait pas été adaptée à son but, vu que les données chronologiques de part et d'autre ne concordaient pas. Velikovsky a pris les documents bibliques au sérieux comme documents de l'histoire, et ce qui témoigne déjà d'une certaine audace non conformiste. Mais en plus, il tenta de trouver dans l'histoire connue de l'Égypte des événements qui correspondraient à ce que nous relatent les annales d'Israël. Et à force de chercher, il a trouvé de telles concordances, en si grand nombre, et par-dessus des plus spectaculaires. Les synchronismes ainsi découverts étaient si remarquables qu'il ne pouvait plus y avoir le moindre doute de l'exactitude des concordances devenues évidentes malgré plus de 150 années de brouillard répandu sur l'histoire du Moyen-Orient ancien par les errements de la chronologie en place. Examinons les plaies d'Égypte. Après avoir évoqué de manière très réaliste les 10 plaies d'Égypte, telles qu'elles se sont décrites dans le livre de l'Exode, Velikovsky, qui en donne une explication naturelle mais catastrophiste, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en Dieu qui fait des miracles, mais il croit qu'il y a des catastrophes, attire l'attention du lecteur sur un document égyptien étonnant, le papyrus Ipuwer, acquis par l'université de Leiden aux Pays-Bas en 1834 et publié en 1846. Avant la publication des ouvrages de Velikovsky, c'est-à-dire 1952, aucune comparaison n'avait été faite entre la Bible et ce document égyptien. Aucune. L'effet de celle qu'effectua notre auteur en 1952 est saisissant. Écoutons la juxtaposition qu'il fait du papyrus Ipuwer et le texte de l'Exode. Je vais vous lire ça. Papyrus, je ne donne pas les références, vous pouvez le voir dans le texte. Papyrus, la terre est couverte de plaies, il y a du sang partout. Exode. Il y avait du sang sur toute la terre d'Égypte. Ceci fut la première plaie. Papyrus, la rivière est en sang. Exode, toutes les eaux des rivières furent changées en sang. Cette eau était dégoûtante et les gens ne purent la boire. Papyrus, les hommes se refusèrent à goûter. Les êtres humains avaient soif. Exode. Et tous les Égyptiens creusèrent autour des rivières pour trouver de l'eau, car ils ne pouvaient pas boire l'eau de la rivière. Dans la rivière, les poissons moururent, mais vers, insectes et reptiles se multiplièrent, Exode, et la rivière empestait. Papyrus, voilà notre eau, voilà notre bonheur, qu'allons-nous faire? Tout est en ruine. Les mots suivants relatent la destruction des champs. Exode, et la grêle écrasa toute l'herbe des prés et cassa toutes les herbes des champs. Papyrus, les arbres sont brisés, on ne trouve plus ni fruits ni légumes. Ce présage fut accompagné de feux brûlants, les flammes couraient sur toute la terre. Exode, le feu courait sur le sol, il y eut de la grêle et du feu mêlé de grêle. Ce fut très douloureux. Papyrus, en vérité, portes, colonnes et murs furent consumés par le feu. Le feu qui consumait la terre n'était pas répandu par la main humaine. Mais tombé des cieux, selon l'Exode, ce torrent de destruction poursuivait son œuvre. Exode, le lin et l'orge furent frappés, car l'orge était en épi et le lin bouillait. Papyrus, mais le blé et le seigle, n'étant sortis de la terre, furent épargnés. Mais ce fut la plaie suivante qui provoqua l'aridité totale des champs. D'après le papyrus Ipuwer et le livre de l'Exode, il fut impossible de fournir à la couronne son tribut de blé et de seigle. De même, selon Exode, et les poissons et de la rivière moururent. Il n'y eut plus de poissons pour approvisionner la maison royale. Le papyrus, la basse Égypte pleure. Tout le palais se trouve sans revenu, blé, orge, oies et poissons qui lui appartenaient de droit. Les champs sont entièrement dévastés. Exode, sur toute la terre d'Égypte ne subsistait aucune verdure, ni sur les arbres, ni sur les champs. Papyrus, en vérité, la semence a péri de toutes parts. Papyrus encore, en vérité, tout ce qui hier encore était visible a péri. La terre est aussi dénudée qu'après la coupe de Tulin. Puis Velikovsky évoque la dernière plaie mortelle, celle où furent tués tous les fils aînés des Égyptiens. Exode. Et Pharaon se leva pendant la nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et ce fut en Égypte une grande clameur, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut pas de mort. Exode, à minuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés des Égyptiens, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né des prisonniers dans leur cachot. Papyrus. En vérité, les enfants des princes sont écrasés contre les murs. Papyrus, les enfants des princes sont précipités dans les rues. Pour abréger, passons à la destruction du pharaon et de son armée dans la mer Rouge et à la plaie des ténèbres qui l'a précédée. Papyrus, au milieu des désordres sauvages de la nature, sa majesté du pays de Chou, c'est-à-dire le pharaon, rassembla ses armées et leur ordonna de le suivre dans les régions où leur promit-il, ils verraient de nouveau la lumière. Nous verrons notre père, Ra Harakouti, dans la région lumineuse à Bakit. Sous couvert de l'obscurité, les envahisseurs venus du désert arrivèrent aux frontières de l'Égypte. Sa majesté de Chou partit combattre les compagnons d'Apopi, dieu féroce des ténèbres, le roi, et ses hommes ne revinrent jamais. Ils périrent. Papyrus. Quand la majesté Ra-Hamrachis, Harakhti, se battit contre les mauvais dans ces marais du lieu des tourbillons, les mauvais n'eurent pas la raison de sa majesté, mais sa majesté fit un bond dans ce qu'on appelle le lieu des tourbillons. Et le livre de l'Exode dit, la mer rentra dans son lit, et les Égyptiens en fuyant la rencontrèrent, et le Seigneur culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Et les eaux refluèrent, et recouvrirent chars et cavaliers, et toute l'armée du pharaon, qui avait pénétré avec eux dans la mer. Pharaon lui-même périt, car lorsque la cavalerie de pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, était entrée dans la mer, le Seigneur fit refluer ses eaux sur eux, dit l'Exode. Les sources égyptiennes et hébraïques donnent de l'histoire des ténèbres en Égypte des images quasi similaires. La mort du pharaon dans les eaux tourbillonnantes est semblable dans les deux récits et l'importance de ces similitudes est renforcée car les deux versions signalent que le pharaon périt dans un tourbillon pendant ou juste après les jours de profonde obscurité et de violentes tempêtes. Cependant, une ressemblance frappante ne signifie pas une identité parfaite. On peut considérer que les deux récits sont similaires, dit Velikovsky, à condition de ne pas imputer au hasard les détails trouvés dans les deux versions. On a décrit le pharaon à la tête de son armée en marche alors que le grand cataclysme affectait la résidence royale et que la tempête obscurcissait la terre. Il arriva en un lieu ainsi désigné. Le papyrus. Sa majesté, ici il y a quelques mots qui manquent dans le texte, se trouva en un lieu appelé Pi-Karoti. On rapporte quelques lignes plus loin qu'il fut précipité avec force. La masse d'eau tourbillonnante le propulsa dans les airs. Il s'envola vers le ciel. Il était mort. Le traducteur explique la désignation de ce lieu géographique de la façon suivante. Pi-Karoti n'est connu que par cet exemple. Cette tentative d'identifier les versions hébraïques et égyptiennes s'avérera correcte si la localité où périt le pharaon se trouve sur les rives de la mer du passage. Exode 14, 9. Mais les Égyptiens se lancèrent à leur poursuite, tous les chevaux et les chars du pharaon, et ils les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer de Pi-Hahiroth. Pi-Hakirot. Pi-Karoti et Pi-Kirot du texte hébreu. C'est le même endroit. C'est la même poursuite. Et c'est une erreur de dire
fini, Velikovsky, qu'on ne trouve ce nom nulle part excepté sur le monolithe. Fin de citation. Ensuite, et nous allons abréger, comme il le faut, les Hyksos, les envahisseurs de l'Égypte, qui soumettent l'Égypte pendant 4 ou 5 siècles, les Hyksos, ce que les Égyptiens appellent les Amou, la Bible appelle les Amalécites. Et Velikovsky, je ne peux pas entrer là-dedans maintenant, mais Velikovsky le prouve d'une manière extraordinaire, avec une grande variété de sources, non seulement bibliques, mais arabes. Velikovsky tire ensuite les conclusions de sa comparaison minutieuse, parce qu'il fait une comparaison très détaillée des sources bibliques, des sources arabes et des sources égyptiennes. Et immédiatement à la suite du manuscrit épouvert, il est parlé de ces Amalécites qui viennent. Alors, dans la Bible, on sait que les Hébreux rencontrèrent les Amalécites en quittant. Et ils durent s'écarter à cause des Amalécites. Et les Amalécites sont entrés dans une Égypte à plat. Il n'y a pas eu de résistance. Ils ont dominé l'Égypte pendant 5 siècles. C'est pour ça que pendant toute la période des juges, l'Égypte est totalement absente du pays de Canaan. C'est normal, elle est à plat. Mais qui n'est pas absent, c'est les Amalécites. Vous vous souvenez de Gédéon? Les Amalécites, vous voyez là. Et ça donne une justification entière à cela. Et voilà, Velikovsky tire ensuite les conclusions de sa comparaison minutieuse. Sur les bases de ce qui précède, on peut conclure, sans contestation possible, dit Velikovsky, que les Amous des sources égyptiennes et les Amalécites des sources hébraïques et arabes n'étaient pas des peuples différents, mais une seule et même nation. Leur désignation est semblable, Amou ou Umaya, non fréquemment utilisé chez les Amalécites, était synonyme d'Amalécites. Des Haori, Jahaori, un linguiste arabe du 10e siècle avant de notre ère, écrivit, d'après la transmission orale, ce nom Amou ou Umaya désigne les Amalécites. Velikovsky ajoute ceci. Nous avons résumé l'histoire des Hyksos et des Amalécites afin de renforcer autant que possible les preuves de leur similitude. Et ce n'est pas simplement l'énigme de l'identité des Hyksos qui est mise en jeu, mais la structure entière de l'histoire ancienne. Si les catastrophes décrites dans le papyrus Ipuvert et le livre de l'Exode sont les mêmes, et si de plus les Hyksos et les Amalécites ne font qu'un seul et même peuple, alors l'histoire du monde, telle qu'elle se déroula réellement, est totalement différente de celle qui nous fut enseignée. Pour cette raison, la date exacte de l'Exode est d'une importance capitale. Israël ne quitta pas l'Égypte sous le Nouvel Empire, ainsi que le soutiennent les universitaires, mais à la fin du Moyen Empire. Et la période intermédiaire qu'on appelle entre le Nouvel Empire, le Moyen Empire, l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire, il y a une période intermédiaire entre les deux. C'est la période des Hyksos. Toute l'histoire des Hyksos s'étend entre ces deux empires. Leur expulsion ne fut ni antérieure, ni similaire à l'Exode. Saül chassa les Hyksos. Leur dernière défaite fut l'œuvre de Joab, officier de David. David vécut au 10e siècle et Saül le précéda sur le trône. Mais comme les érudits considèrent en général que l'expulsion des Hyksos eut lieu en 1580 avant Jésus-Christ, nous nous retrouvons avec une période vierge de 600 ans. Puis ensuite, il se pose la question, quelle partie de l'histoire doit être déplacée? Est-ce que c'est l'histoire israélienne, israélite, ou c'était l'histoire égyptienne? Et il montre que l'histoire israélite est tellement structurée, écrite chronologiquement, qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas trouver un creux dans cette histoire. Tout est lié chronologiquement. La chronologie biblique est extraordinairement serrée. Elle se renforce de différents points de vue. On peut arriver à une chronologie très exacte. Alors ça doit être du côté égyptien. Ensuite, il continue, siècle après siècle, il examine. La reine de Sheba. C'est qui la reine de Sheba? La reine de Saba n'est pas sous le Nouvel Empire, comme on dit, mais à la fin du Moyen Empire. On ne pourrait pas dire tout ça, mais ça c'est très intéressant. Et on voit que c'est la seule pharaon égyptienne qui était à cette époque contemporaine dans la nouvelle chronologie de Salomon. Hatshepsut, Hatshepsut, Hatshepsut. Et comment est-ce qu'on le sait? Parce que Hatshepsut, en revenant de Salomon, de Jérusalem, a construit un temple. Le temple ressemble au temple de Jérusalem. Et sur les murailles de ce temple, il y a des bas-reliefs. Et ces bas-reliefs décrivent son voyage. Et on voit la ville de Jérusalem, on voit les habitants de ce pays. Et c'est tout à fait ça. Personne n'a fait attention à cette concordance. Ensuite, Salomon vient mourir, le royaume est divisé, Roboam lui succède. Et la ville de Jérusalem est prise par le pharaon. On connaît dans la Bible sous le nom de Shishak. Qui est Shishak? Shishak, c'est le fils de Hatshepsut. Comment on le sait? Parce que, après avoir pris Jérusalem, sans bataille, il a pris, la ville s'est cédée, a cédé. Il a pris tous les ustensiles du temple. Et quand il est revenu chez lui, il a célébré sa victoire. Et sur les bas-reliefs de son temple, on peut voir encore aujourd'hui tous les ustensiles du temple. Ils sont exactement comme la description qu'on trouve dans les chroniques, dans les rois, et dans le Lévitique, et dans l'Exode. Puis ensuite, Rachamra et Allah Amarna, on voit déjà ça, on en a parlé déjà, on voit une correspondance extraordinaire du temps de... Il dit ceci, et je viendrai là, j'arrive à la fin. Velikovsky résume son propos comme suit, je le cite, « Mon arme secrète est celle de l'estimation du temps. Je réduis de 600 ans l'âge de Thèbes et d'Al-El-Amarna, où on avait trouvé toutes ces lettres, et je trouve le roi Josaphat à Jérusalem, Ahab en Samarie, Ben-Hadad à Damas. Si ma correction du temps ne m'a induit en erreur, ils furent bien les rois qui régnèrent à Jérusalem, Samarie et Damas, sous la période armanienne. » Et dans ces briques cuniformes où il y avait la correspondance internationale des pharaons, on trouve des lettres à ces différents rois. Et elles sont parfaitement identifiées. Conclusion. On pourrait juste encore lire la conclusion que fait, pour terminer ce survol bien trop rapide du travail d'Emmanuel Velikovsky, citons quelques-unes de ses conclusions générales. En 3 chapitres consécutifs, dit Velikovsky, nous avons démontré l'évidence historique de 3 générations successives, d'abord en Égypte, Hatshepsut, Thoutmôsis III, Amenopis II, et ensuite en Palestine, Salomon, Roboam, Asa. Et nous avons trouvé entre eux une correspondance à toute épreuve. Il se pourrait que par accident, une période de l'Égypte ressemble de très près à une autre période et offre ainsi des bases à une fallacieuse coexistence. Mais il est tout à fait impossible que 3 générations consécutives en Égypte et dans la Palestine voisine, appartenant à 2 périodes différentes, puissent présenter des concordances aussi cohérentes parmi tant de détails. Ce qui est d'autant plus saisissant, c'est que le choix de ces 3 générations successives en Égypte et en Israël ne fut pas l'effet du hasard, mais nous fut imposé par les similitudes trouvées dans les premiers chapitres et les réflexions qu'elles suscitèrent. Nous avons dès lors minutieusement étudié d'une part le temps de l'Exode et les siècles ultérieurs jusqu'à Saül, et d'autre part les derniers jours du Moyen Empire en Égypte et les siècles suivants soumis à la tyrannie des Hyksos jusqu'à la naissance du Nouvel Empire. Et Velikovsky de conclure, ce serait en vérité un miracle si toutes ces coïncidences étaient purement accidentelles. Conclure. Notre conclusion portera sur une question traitée en filigrane dans toute cette étude, mais que nous abordons enfin ici directement. Quelle est la valeur de la chronologie biblique? Nous avons appelé à la barre de l'histoire du Moyen-Orient ancien un certain nombre de spécialistes. Ils nous ont indiqué, 1. les faiblesses internes de la chronologie officielle qui prétend charpenter l'histoire du Moyen-Orient ancien. 2. Les difficultés suscitées pour l'interprétation des faits de l'histoire du Moyen-Orient ancien par la chronologie en place. 3. Les synchronismes extraordinaires que l'on découvre dès que la chronologie officielle est corrigée de quelque 600 ans. En arrière-plan, nous avons pu constater à maintes reprises la sûreté, la fiabilité, la solidité à toute épreuve de la chronologie continue que l'on découvre dans les récits de l'histoire biblique du peuple d'Israël. Ainsi, nous terminerons avec quelques mots tirés du beau petit livre de Philippe Mauro, « Les merveilles de la chronologie biblique », et je le cite. « Car ce n'est pas une des moindres merveilles du volume sacré que l'on trouve dans le texte lui-même, une ligne continue d'événements datés qui, commençant avec la création d'Adam, vont se projeter au travers de 40 siècles d'histoire humaine jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ et la venue du Saint-Esprit. Car la chronologie de la Bible, en contraste avec toute autre chronologie, détient des caractères distinctifs et uniques qui sont si remarquables que l'on peut justement leur attribuer le terme de merveilleux. Cette chronologie si merveilleuse a sa propre base, son propre plan, son propre but. Sa base, c'est la Bible tout entière. Son plan est la ligne généalogique, ligne de vie, qui s'étend du premier Adam au dernier Adam. Du commencement de la vieille création à celui de la nouvelle. Et son but est d'amener ceux qui suivent sa progression aux révélations de cette vérité se rapportant à l'œuvre majestueuse de la rédemption divine et à des leçons pratiques et spirituelles d'une portée immense. Amen.